Bonjour. Waouh. C'est la première fois que je prêche sur cette nouvelle chaire. C'est génial, hein? Mais du coup, le problème, c'est que vous voyez pas mon t-shirt. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Walter Alexandre, marié à Laetitia, que vous avez vu pour la présidence. Ouais, on fait ça en famille. Et nous avons 3 enfants. Je suis membre de cette église et parmi mes nombreux métiers, je suis notamment évangéliste. Ouais, c'est un terme un peu barbare, mais c'est simplement pour dire comment est-ce que j'annonce l'évangile, comment est-ce que j'annonce la bonne nouvelle, comment j'annonce Jésus. Alors, en réalité, en tant que chrétien, on est tous censés pouvoir annoncer Jésus. Mais pour ma part, je l'ai fait en m'ayant dégagé du temps justement sur mes autres métiers. Alors en tant qu'évangéliste, je suis parti il y a 2 semaines dans le nord de l'Espagne, à 70 km à l'est de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vous montre où ça se trouve, c'était un peu loin. Saint-Jacques-de-Compostelle qu'on appelle aussi Santiago. Ça, il faut le savoir, parce que quand j'ai pris l'avion, je me suis dit, purée, c'est où Saint-Jacques-de-Compostelle? Ouais, c'était Santiago, ouais, exact. Donc, là, dans l'auberge, donc, on était dans une petite auberge qui s'appelle la Fuente del Peregrino, la Fontaine du Pèlerin. J'ai servi, j'ai discuté avec le millier de pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passent devant cette auberge chaque jour. C'est impressionnant, impressionnant le nombre de gens qu'il y a. On peut même monter à plus de 3000 personnes par jour pendant les semaines saintes. C'est impressionnant. Je vous montre la rue le matin, on ne le voit pas tout à fait bien, mais sur la photo de gauche, c'est la rue où on était positionné pour attendre les pèlerins. Et ce n'est pas compliqué, de 10h à 15h, cette rue, elle n'était jamais vide. C'était waouh. Impressionnant de voir qu'il y avait tant de monde. Donc sur l'autre photo, vous voyez les pèlerins derrière en train de marcher et tout le temps, on avait des pèlerins. C'est ici, à cet endroit-là, que John et Kerry O'Neills, ce sont des Américains, ont fait, il y a 26 ans, le parcours, 2 fois ils l'ont fait, 2 années de suite, ils ont fait ce parcours avec des jeunes de leurs églises. Et ils se sont dit, mais waouh, mais il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde que ça serait génial de pouvoir faire une auberge, un lieu de rencontre où on va pouvoir offrir peut-être le café, le thé, une tisane ou autre, une boisson, un lieu de repos pour ces pèlerins et de pouvoir leur parler de Jésus. Et 24 ans plus tard, 1,4 million de personnes sont passées dans cette auberge. 24 000 personnes ont fait leur nuit là-bas en raison de 7 lits par nuit, donc ce n'est pas énorme, mais 24 000 personnes. 70 conversions rien que l'année dernière. Là, on se dit, waouh, on est jaloux, hein, parce que dans nos églises, on n'a pas ça. Hein, c'est ouh, ouais, impressionnant. Regardez le nombre d'épingles. On avait 2 cartes, avec la carte du monde et puis une carte européenne. Et quand on demandait à des groupes qui venaient pour prendre le café, on discutait avec eux, ou qui passaient la nuit aussi chez nous, on leur disait « Ah ben écoutez, prenez une petite épingle et mettez-nous là où vous venez. » Alors je crois qu'ils ont eu un prix de gros au Mexique, parce qu'on n'a eu que des Mexicains à un moment donné. Je me suis dit « Purée, là, qu'est-ce qu'ils font les Mexicains ?» Mais c'est impressionnant. On a vu des gens de Ushuaia, l'autre bout du monde. On a vu des gens de Russie, des gens d'Europe, forcément, beaucoup d'Américains, assez impressionnant. Et généralement, quand on commence le service pendant 1 semaine, on enlève les épingles de ce, que les autres groupes, l'autre groupe de l'année, de la semaine d'avant avait positionné, et on a enlevé comme ça 150 épingles, 150 groupes, pas personne, hein, mais 150 groupes qui sont passés dans cette auberge et qui ont bu quelque chose, qui ont pu se reposer et qui ont entendu au moins une parole pour les aider à grandir sur leur chemin. Alors on était là pour leur offrir les boissons, le repos, le dîner du soir également, et la nuitée pour ceux qui le voulaient. Et tout cela, pas gratuitement, parce que rien n'est gratuit dans la vie, sauf peut-être l'amour de Dieu. Hein ? Ça, Laetitia nous l'a dit avant. Alors on ne l'a pas offert gratuitement, on leur a donné comme un don. Parce qu'on voulait aussi leur montrer que c'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous sur la croix. Il nous a donné sa vie. Et pour nous, c'était aussi important de leur dire, voilà, c'est pas gratuit, mais on te l'offre, on te le donne. Donc là, avec toute une équipe, on a fait la cuisine, le ménage, on a parlé avec les pèlerins, forcément. Alors c'était un peu frustrant pour moi parce que le problème, c'est que mon niveau d'anglais et d'espagnol, il était inexistant. C'était impressionnant, c'était le tohu-bohu. Alors ouais, non, franchement, c'était nul. Alors j'ai réussi quand même à rencontrer des Français, des Allemands, donc ça allait encore un peu, mais ouais, c'était difficile, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire dans cette galère ? Parce que, en plus, on vit en communauté, on était 14 avec les enfants, autant vous dire que la nuit, avec les ronflements de tout le monde, tu dors pas. Alors, ils ont fait un truc qui était génial, c'est qu'ils nous ont fait un planning pour dire « Ok, on le fait à l'espagnol, c'est-à-dire 15 heures sieste. Ouh, j'aime la sieste !» Mais non, c'était pas possible, parce que là, les enfants, ils font du foot, dans l'auberge, il y a toujours plein de bruit, et donc les temps de repos sont pas vraiment des temps de repos. En plus, je suis parti seul, j'ai laissé la famille à la maison, et oui, il y avait école encore à ce moment-là. Du coup, il y avait aussi le manque de la famille pendant 10 jours. Et en plus, financièrement, bah, il fallait tout payer. Il fallait payer le transport, mais il fallait aussi payer les nuitées, nous-mêmes. Hein, on payait nos nuits, nos repas, etc. Et à un moment donné, on se pose la question, mais qu'est-ce que je fais dans cette galère ? J'avais des cernes comme ça, j'avais du mal à trouver des Français avec qui je pouvais parler. Mais en même temps, pour mieux comprendre le pourquoi du comment je me suis retrouvé là, on va prendre un texte biblique ensemble. Alors si tu veux, Jean-Denis, tu peux réallumer une petite partie de lumière ici. Alors nous avons fêté Pâques récemment et nous sommes encore dans ce temps de ce que nous appelons les 40 jours. Hein. Donc entre Pâques et l'Ascension où Jésus est ressuscité des morts à Pâques et finalement on n'est pas encore arrivé à ce temps de commémoration où Jésus monte au ciel. Nous sommes un peu dans cet entre-deux. Et notre texte dans la Bible se trouve au moment où Jésus est ressuscité. Il n'est encore apparu à personne, sauf à un groupe de personnes, des femmes. Et moi, je trouve ça tellement merveilleux. Des femmes qu'on n'écoutait pas dans le temps. Des femmes qu'on disait qu'elles colportaient des histoires à dormir debout. Alors franchement, si tu ne veux pas perdre ton temps, tu n'écoutes pas une femme, ça sert à rien. Et pourtant, Jésus vient en premier pour les femmes. Ça, je trouve c'est merveilleux. Et finalement, quand on y réfléchit, notre société n'est pas bien différente, non ? Les femmes sont souvent mises à l'écart, souvent elles sont un peu derrière les hommes, mises à l'étroit, elles se sentent des fois inférieures, mises de côté. Et en tout cas, si c'est ton cas aujourd'hui, je t'encourage à ne pas faire comme ce que le monde veut faire, un peu ce qui est à la mode, rentrer dans des luttes féministes à fond. Non, c'est pas ça qui va faire avancer les relations hommes-femmes. Non, bien au contraire, accepter Jésus, parce que lui, il réunit tous ceux qui ont été divisés. Alors, quelques heures après cet événement où Jésus vient voir le groupe de femmes, nous rencontrons dans la Bible deux hommes qui ont entendu les femmes, mais on va quand même pas croire les femmes, et qui s'en vont tristes. Tristes parce qu'ils ont perdu des mois, voire des années à suivre un bonhomme qui a fini sur une croix. Ils avaient mis tout leur espoir en lui, c'est comme au loto. Vous misez tout sur un numéro, et quand la loterie sort, waouh, le numéro sort pas. On était tellement sûr que c'était lui. On était tellement sûr que c'était le bonhomme, le Messie qui était là. Et non, il est mort sur une croix. Le problème, c'est qu'ils sont en train de rentrer chez eux. Ça fait tellement de temps qu'ils ont quitté femmes, enfants, parents, amis. Et ils reviennent la tête basse. On n'oublie pas qu'on est dans une époque où il y a une culture de la honte et ils le savent. Il va falloir qu'ils portent la honte de ce bonhomme qu'ils ont suivi, qui est mort sur une croix comme un vulgaire brigand. Et il va falloir porter cette honte devant nos parents, devant nos amis. Waouh, on a vécu tellement de choses excellentes avec Jésus. Et maintenant, comment est-ce qu'on va rentrer à la maison? Et nous retrouvons ces deux hommes dans Luc, et ça se trouve dans la Bible, donc dans Luc 24, à partir du verset 13, nous retrouvons justement les passages. Alors, le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Alors, il faut savoir que sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, les gens y font aux alentours d'une quinzaine, peut-être une petite vingtaine de kilomètres. Donc on n'est pas tout à fait loin de ce que nos deux hommes font à cet endroit-là. Ils vont marcher 12 kilomètres pour rentrer. Deux hommes sur un chemin de tristesse. Ils le savent, il va falloir faire ce deuil. Deuil d'avoir perdu leur maître, mais aussi leurs illusions. Il va falloir marcher seul maintenant. Ce chemin qu'ils arpentent, d'autres l'ont fait. Nous avons rencontré sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle une jeune femme, une néerlandaise. Ça faisait 3 semaines qu'elle marchait, à raison de 20 km par jour. Et elle arrive chez nous. Quand les gens arrivent à l'auberge, ils sont à peu près à 3 jours de finir leur chemin, 3 jours de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc elle arrive chez nous, épuisée, dans l'après-midi, et elle nous demande « Est-ce que vous avez encore des lits ?» Ah ben, non, tout était plein. Mais, pas de panique. On sait qu'il y a quelques pèlerins comme ça qui sont désespérés, qui n'arrivent plus, et donc on garde toujours des lits de secours. Et donc on lui a dit « Écoute, pas de problème, viens, on sortira un lit de secours pour toi, installe-toi. » Prends-toi du repos. Et là, le soir, à table, on fait un peu le tour des pèlerins qui sont là, et puis on leur pose des questions sur ce chemin. Que cherches-tu? As-tu trouvé Dieu? Repars-tu des fois dans ton deuil, comme ces hommes? Et cette jeune néerlandaise s'effondre en pleurant. Ça fait 3 semaines qu'elle marche, et ça fait 3 semaines qu'elle a dans son sac l'urne de sa mère, qu'elle voulait disperser sur ce chemin-là. Et ça fait 3 semaines que personne sur ce chemin lui demande comment ça va. Comment te sens-tu? Que cherches-tu sur ce chemin? Dans nos vies, nous avons aussi nos chemins de deuil, où nous marchons seuls, comme cette fille, comme ces hommes. Et nous avons des fois l'impression d'être tellement seuls. Mais la suite du texte nous dit, pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Ce qui est merveilleux, c'est que comme beaucoup l'ont expérimenté en rentrant dans cette auberge de la Fuente del Peregrino, c'est que Jésus est là, sur ton chemin, à marcher avec toi. Nous pensons des fois à tort que nous marchons seuls, que nous sommes seuls à porter nos deuils, nos fardeaux. Non, Jésus vient marcher avec toi. Et ce n'est pas un concept hautement philosophique, hein. Jésus vient marcher dans ta vie. Mais faut-il encore que nous puissions le voir, l'entendre, le reconnaître? Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Combien de fois Jésus est venu dans ta vie marcher à côté de toi, à travers une personne, à travers une parole, à travers peut-être un rêve? Et combien de fois tu ne l'as pas reconnu, entendu, parce que tu étais peut-être plus concentré sur le bruit extérieur ou peut-être sur le bruit intérieur? Nous avons entendu des gens qui ont fait le parcours de Saint-Jacques de Compostelle plus de 40 fois. 40 fois. Et ils n'ont toujours pas entendu parler de Jésus. Un homme un jour est venu pour la nuitée. Alors c'était pas dans notre équipe, c'était il y a quelques années en arrière, on nous avait raconté ça, et l'équipe qui était là-bas à ce moment-là, ben, ils lui ont témoigné de Jésus. Mais l'homme n'a rien dit. Il était à 3 jours de boucler son 30e chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 30e. L'équipe pensait que l'homme ne voulait rien savoir de Jésus, et le matin, en se levant, généralement les pèlerins, ils étaient partis depuis longtemps, ils partent très tôt les pèlerins. Nous, l'équipe, on se lève un peu plus tard, vers 8h30. Donc, le matin, quand l'équipe se lève, il retrouve dans le cahier d'or des inscriptions. J'ai fait le parcours plus de 29 fois sans avoir jamais trouvé ce qui me manquait dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il me manque Jésus. Mon chemin est fini, je peux rentrer à la maison. Et cet homme est rentré directement à la maison sans boucler son 30e chemin. Il a compris. Je n'ai plus besoin de marcher là. Je sais que Jésus est là et je sais que j'ai besoin de Jésus. Waouh! Jésus était là ce jour-là dans la parole de cette équipe et l'homme a su l'entendre. C'est pour cela qu'en 1999, l'auberge de la Fuente del Peregrino existe et ouvre pour la première fois ses portes. Toutes les semaines, un nouveau groupe du monde entier vient remplacer l'autre équipe. Donc je sais que quand nous on est partis, par exemple, on était beaucoup de Grenoble, il y avait quelques-uns de Belgique, moi j'étais d'Alsace. Et puis quand on est partis, un autre groupe des États-Unis sont venus pour nous remplacer. Et ils sont là pour parler de Jésus, pour être auprès de ces pèlerins en recherche de quelque chose qui leur manque. Et nous, est-ce que nous entendons encore Jésus ou est-ce que nous entendons Jésus? Ce n'est pas parce que tu as fait un jour une expérience avec Jésus qu'il faut s'arrêter de marcher, hein. C'est super important de continuer de marcher avec lui. Je vous encourage à pouvoir continuer à marcher sur ce chemin, à te laisser questionner par Jésus, Regardez comme il questionne les disciples. Et moi, je trouve ça excellent. Il leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air triste, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?» Quoi donc ?
Ça, je trouve ça génial. Quoi donc ?
On parle de Jésus quand même. Hein. Toute cette histoire, c'est Jésus. Hein. C'est lui, hein. C'est l'acteur principal. Tout le monde parle de lui. Et lui, il te dit « Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant le peuple. Nos chefs, les prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. » Qui est Jésus pour toi ? Un imposteur ? Un grand sage ? Un prophète ? C'est ce que ces hommes le disent sur ce chemin. Hein. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance. C'était aussi la question que nous posions temps à autre aux pèlerins. Qui est Jésus pour toi ? Nous avions beaucoup de réponses différentes, mais peu avaient compris que Jésus était plus qu'un grand prophète. J'étais avec un couple d'Allemands, je leur ai parlé de Jésus. Bon, alors en allemand, j'arrive à baragouiner quelques mots, hein. Mais ne me parlez pas allemand, s'il vous plaît, d'accord ? Mais en réalité, ce n'était pas Jésus qu'ils cherchaient. Ce couple cherchait Saint Jacques. Ah oui, sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, on cherche Saint Jacques. C'était en prenant le chemin et en voulant rencontrer Jésus, ils voulaient rencontrer Saint Jacques. Ils voulaient pas rencontrer Jésus, hein, ils voulaient rencontrer Saint Jacques. Et en réalité, pour que vous compreniez, Jacques était le frère de Jésus. Et une légende voudrait que Jacques a évangélisé l'Espagne, c'est-à-dire donc qu'il a fait le tour de la Méditerranée pour arriver en Espagne. Il évangélise l'Espagne, il arrive jusqu'à Santiago, il évangélise là-bas. Donc il ne parle pas de lui, il parle du message de Jésus. Et il rentre à Jérusalem pour se faire décapiter par le roi Hérode. Et les gens de la Galice, c'est-à-dire dans le nord de l'Espagne, là où j'étais, eh ben, ils sont allés récupérer le corps de Jacques pour le ramener et l'enterrer dans la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Bon, c'est une légende. Parce que même les papes, à partir de Jean-Paul II, ne parlent plus de la tombe de Saint-Jacques de Compostelle, enterrée sous la cathédrale, parce qu'on ne l'a jamais retrouvée. Et vraisemblablement, Jacques n'est jamais arrivé en Espagne. Alors je suis désolé pour les Espagnols, mais la tradition est forte. Et les pèlerins, pour certains, veulent voir Saint Jacques. Vous voulez voir Saint Jacques ? Le voilà. On a eu le temps de visiter la cathédrale. Ah, c'est une cathédrale remplie d'or. Et au milieu de la nef, vous trouvez cette statue. Ouais. Ouais, moi, je la trouve pas super belle en plus, hein, personnellement. Mais bon, voilà. Les pèlerins, eux, ils sont tout fans. Ils arrivent à cette statue et vous avez un autre écriteau que j'ai pris derrière parce que, alors au début, j'ai pas compris parce que vous êtes devant cette statue et c'est bizarre parce que tu dis, qu'est-ce qui se passe ? On dirait qu'il y a des mains derrière la statue à chaque fois qu'ils viennent comme ça. Et les pèlerins font la queue pour enlacer la statue. Et donc, il passe par derrière pour enlacer la statue. Et j'ai pris en photo l'écriteau. Je pense que, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, pour bien dire non, ne venez pas l'embrasser comme ça, mais posez-lui juste les mains, ça suffira. Ok. Pourquoi est-ce qu'il est plus facile de détourner le message que de suivre simplement Jésus ? Vous voulez que je vous le dise ? Parce qu'une statue ne remettra jamais en cause votre mode de vie. Alors que Jésus, qui marche avec toi sur ton chemin de vie, il te demande de faire un 180 degrés, un demi-tour dans tes pratiques, dans ta façon de vivre, et de ne plus vivre pour toi, mais de vivre en Jésus. C'est ce que j'ai fait il y a bien longtemps. Ouais, Jésus, choisis ma femme. Ouais, Jésus, je te laisse mon métier, vas-y, prends mon métier en main. Tu veux que je me mette en temps partiel ?
Bon, ok, d'accord. Bon, financièrement, ça sera chaud, Seigneur. Hein. Donc, tu te débrouilles, je te le laisse.
Ouais. Vivre pour Jésus. Et je sais que de toute façon, si j'ai envie de vivre pour moi-même, je vais trop vite, trop souvent, me décevoir ou décevoir les autres qui m'entourent et décevoir Dieu. Mais non, vivre avec Jésus. Et les hommes, sur ce chemin d'Emmaüs, n'avaient pas encore accepter Jésus dans leur cœur et ils n'avaient pas compris qui il était. C'est pour cela que je suis parti affronter le manque de sommeil et les ronflements. Je le savais avant que je parte que ça allait être dur pour les ronflements. J'en connais quelques-uns parce que j'ai une petite équipe de France Évangélisation et le gros problème c'est que je les retrouve dans 2 semaines. Ouais, je sais, il faut que je prenne un peu de sommeil d'avance. Ouais, mais on est parti pour annoncer Jésus, pas un saint, pas une énergie dans la nature ou autre chose. À Saverne, on avait encore le salon de l'énergie et des pierres là qui étaient il n'y a pas longtemps. Ouais, on cherche, hein. Il y a beaucoup de gens qui cherchent et sur le chemin, on voyait aussi beaucoup de gens qui cherchaient comme ça, une énergie. Et là, on leur dit, oui, moi je la connais ton énergie, ça s'appelle Jésus. Et malheureusement, nous avons trop souvent une mauvaise image de Jésus, une image déformée, un Jésus rigoureux, un Jésus qui est trop loin de nous, qui ne nous comprend pas, ou un Jésus qui nous punit. Et le serpent dans le jardin d'Éden a déformé aussi l'image de Dieu, et nous tombons tellement vite dans le panneau pour adorer autre chose, comme par exemple Jacques. Et c'est pour cela que je suis parti, c'est pour cela également que ma femme, Laetitia, est restée à la maison et m'a soutenue, m'a encouragée à partir, à garder les enfants, et en me disant, ok, vas-y, on va faire attention à nos finances, on va faire de notre mieux aussi, mais vas-y, parce que c'est important aussi pour moi qu'on puisse annoncer le vrai visage de Jésus. Ce Jésus qui marche avec toi sur le chemin de vie, qui te questionne et qui t'encourage à le suivre, lui faire confiance et avoir une vision de ce qu'il dit. L'idée, ce n'est pas d'avoir justement une vision telle que les autres nous le décrivent, mais de l'expérimenter pleinement. Et les hommes sur ce chemin d'Emmaüs avaient une vision fausse encore de Jésus, une image déformée, regardez. Nous avons espéré qu'il était celui qui délivrerait Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de nos groupes nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et partant et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. » Impressionnant, non ? Les hommes tristes, mais ne veulent pas croire les femmes. Ben ouais, on va quand même pas croire des femmes, non ? Et en plus, ils partent quand même. Il y a un truc
qui est en train de frétiller, qui est en train de frémir, et ils partent. Ils rentrent chez eux. Ils avaient cette image fausse de Jésus, qui devait venir comme un roi puissant, pour chasser le méchant romain qui les avait envahis. Non, ils n'ont pas compris que Jésus était venu pour chasser le grand méchant qui est dans notre cœur, le péché. Le problème du péché, c'est qu'il te barre le chemin qui t'emmène vers Dieu. Et je vous rassure, beaucoup de gens ont réfléchi à comment retrouver ce chemin et certains vont faire plein d'actions pour être saints, pour se purifier de ce grand méchant du péché, en espérant qu'à travers leurs actions, ils vont influencer Dieu et lui montrer qu'ils sont devenus purs, saints. On retrouve ça chez les musulmans, par exemple, avec leurs 5 piliers de l'islam qu'il faut respecter, ou chez les juifs, avec toutes les lois, les commandements à respecter. Mais le problème, c'est que quand on demande à un musulman « Dieu t'acceptera-t-il au paradis ?»«
Bah, Inch'Allah !»«
Je sais pas, peut-être, peut-être bien, peut-être pas. » Non, on n'est sûr de rien. D'autres vont faire mieux en éliminant le péché de leur pensée. Et c'est quand tu roules à toute allure, tu as beau te dire que l'arbre qui est devant toi, il n'existe pas, tu peux inventer toutes les théories et philosophies du monde entier pour dire que c'est une pensée, que cet arbre n'existe pas. Waouh, quand tu le prends, ça fait mal. Alors le problème, c'est que le péché, il te barre le chemin à Dieu. Et tu ne peux pas faire de telle sorte qu'il n'existe pas. Ou que tu vas jouer ça sur des règles où finalement t'es pas sûr que ça va marcher. Non, la Bible nous dit que le péché t'emmène en enfer, loin de l'amour de Dieu, et cela pour une éternité. Tu ne peux pas jouer ton éternité sur des règles ou des lois dont tu n'es pas sûr, ou sur le fait d'écarter le péché en faisant l'autruche, et en te disant qu'effectivement, peut-être bien que ça n'existe pas. Non, cet arbre qui est devant toi, il existe. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tout ce mal qu'on a réussi à accumuler dans notre cœur est toujours encore plus à nous éloigner de Dieu et toujours encore plus à nous barrer le chemin qui nous mène à Dieu. Et éloigne-toi l'idée que l'enfer ne serait pas pire que vivre ici sur terre. Non, voilà encore une image fausse que le serpent veut nous donner, veut nous faire croire en te disant « Non, mais tu verras, c'est pas grave. » Non, c'est grave. C'est extrêmement grave. C'est la pire chose qui puisse t'arriver, d'être éloigné de Dieu sur cette terre, mais aussi à notre mort. Un seul chemin est sûr. Un seul chemin nous ramène à la maison, près de Dieu. Ce chemin, c'est Jésus. Tu ne peux pas faire semblant. Il va falloir à un moment donné te poser la question si Jésus a vraiment existé, s'il est vraiment ressuscité, si ce sont des histoires de femmes, des histoires à dormir debout. Ou alors, il a vraiment existé, il est vraiment ressuscité, et ces femmes, on peut les croire. Alors s'il est vraiment ressuscité, cela voudrait dire qu'on peut croire en lui. S'il est vraiment ressuscité, alors on peut mettre notre confiance en lui, car lui est ressuscité de la mort et nous montre le chemin pour nous ramener à la maison, auprès de Dieu. Donc, si tu as encore un doute sur Jésus, sa résurrection, alors prouve-moi qu'il est mort et jamais ressuscité. Bon courage. Et le tombeau vide du dimanche de Pâques, c'est notre
garanti. Ce n'est pas Inch'Allah. Non, le tombeau vide nous prouve que Jésus est ressuscité, nous prouve que Jésus, que Dieu, a accepté ce sacrifice. Cet innocent mort pour nos péchés, mort pour nos méchants cœurs, cela nous prouve qu'il a accepté Jésus. Et on retrouve le chemin qui nous mène à Dieu, à notre Papa. Il faut que je vous donne un exemple pour que vous puissiez bien comprendre, parce que le tombeau vide du dimanche matin, c'est crucial, c'est super important. Donc pour que vous compreniez bien, je vais l'imaginer un peu autrement. Imaginons que j'ai 3 enfants, ça c'est vrai, c'est pas la peine d'imaginer. Supposons qu'un de ces enfants soit extrêmement sage, mais que les 2 autres sont vachement moins sages et ils s'ennuient à la maison. Vous savez ce que ça fait à des enfants quand ça s'ennuie ? Ça fait des bêtises. Ma femme et moi ne sommes pas dans les parages, du moins c'est ce qu'ils pensent. Alors, ils errent dans la maison à chercher quelle bêtise faire, et là, ils trouvent catastrophe. Ils tombent sur le stock de pétards qu'on n'a pas éclaté du nouvel an dernier et qu'on garde pour le nouvel an prochain. Pensant qu'on n'est pas à la maison, ils sortent et ils explosent tous les pétards. Maintenant, supposons que ma femme et moi, effectivement, nous sommes là, à la maison. Nous sortons, nous prenons les 2 enfants qui ont participé à ce mauvais coup, et quand ils nous voient, ils sont absolument terrifiés. Et là, ils viennent de se rendre compte que, oups, on a peut-être fait une bêtise. Mais au moment où on est sur le point, enfin, ils sont sur le point de mériter, de recevoir cette colère, quand au moment où nous allons exploser de colère, on a le fils qui est super sage, qui descend et qui vient nous voir. Il s'avance, et même s'il n'a pas pris part aux actes, à ses frères et sœurs, il propose d'être puni à leur place. Nous l'envoyons directement dans sa chambre, du coup, tu veux prendre la place, tu vas dans ta chambre, tu es puni de télé, de repas, de tout, et ça au moins pendant 3 jours. Ouais, c'est normal, je suis sévère. Cet enfant rentre dans sa chambre, il ferme la porte, et pendant 3 jours, il est puni. Les 2 autres enfants qui restent, les 2 rebelles, que pensez-vous qu'ils pensent ? Est-ce que ça va marcher ? Ils sont vraiment sérieux, nos parents ? Ils ont puni un innocent, là, alors que c'était nous qui devions prendre cette faute. Waouh, mais on est un peu mal à l'aise parce que, ok, est-ce que ça marche vraiment cette chose-là où ils punissent celui qui n'a rien fait et qui est dans sa chambre ? Et finalement, 3 jours plus tard, les parents disent à l'enfant sage, ok, c'est bon, ta punition, elle est levée, tu peux sortir de cette chambre. Il sort et là, on a les 2 autres enfants qui ne voient pas l'enfant sortir, mais ils rentrent dans la maison et ils voient la chambre ouverte. La chambre ouverte et vide montre que pour les parents, la justice a été rendue. Cela a vraiment fonctionné. La dette a été payée, la culpabilité a été effacée, la punition a été accomplie. Vous voyez le rapport ? Le tombeau vide du dimanche matin de Pâques nous montre que l'échange a été accepté. La punition pour le péché, c'est la mort et l'enfer. Par conséquent, si Jésus a vaincu la mort, c'est qu'il a pris sur lui l'entièreté de la punition. C'est terminé. La résurrection affirme haut et fort que l'échange a fonctionné, que justice a été satisfaite et qu'il ne reste plus rien à payer. Et quand je parle de justice, c'est vraiment dans le sens judiciaire. Oui, seul Jésus est le chemin. Seul lui nous donne accès à Dieu. Et ça, les hommes du chemin d'Emmaüs commencent à le comprendre. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais il le retient avec une vive insistance en disant « Reste avec nous, tu vois bien que le jour baisse et le soir approche, alors entre dans la maison pour rester... » Enfin, non, alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Notre cœur ne brûlait-il pas ? Leurs yeux se sont ouverts, ils ont accepté Jésus dans leur cœur. Ils ont compris que seul lui était capable de nous ramener à Dieu pour une éternité avec lui et pas loin de lui. Et que lui seul était capable de changer notre vie, déjà maintenant sur terre. Alors ce matin, si toi aussi, tu veux suivre Jésus, l'accepter dans ta vie, que tu veux passer l'éternité avec lui, alors je te propose, à la fin du culte, de venir nous voir, Laetitia, moi-même ou d'autres responsables, et on pourra prier pour toi. N'attends pas. Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, nous avons rencontré trois filles qui faisaient ce pèlerinage ensemble et le soir, en discutant avec elles, à table, elles nous ont raconté qu'à 5-6 kilomètres de l'auberge, un homme devant elles s'effondre et meurt. 40 ans. 40 ans et son chemin s'est arrêté. Ne dis pas que tu as le temps, car nous ne savons pas. Jésus, ouais. Viens Jésus quand tu le peux encore, parce que ça vaut le coup. Et je vous le prouve avec ce dernier verset, et après je m'arrête. Hein. Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. C'est peut-être un verset qui ne vous parle pas plus que ça, mais on ne fait jamais la route le soir. C'est trop dangereux. C'est pour ça qu'ils retiennent Jésus en lui disant « Non, non, mais le soir descend, reste avec nous. Dehors, c'est trop dangereux. Il y a les brigands, les voleurs. On ne fait jamais la route le soir. » Et en plus, attendez, c'est pas les bonhommes là qui, à l'aller, étaient complètement tristes et dans le deuil ? Et en plus, c'est pas eux qui ont marché 12 kilomètres ? Non, non, mais attendez, c'est-à-dire qu'ils vont, se refaire 12 kilomètres ? Ils vont faire 24 kilomètres dans la journée là ? C'est ça, découvrir Jésus. Pas un prophète, hein, mais Jésus, le connaître. Celui qui sauve nos vies, c'est ça le 180 degrés, le demi-tour dans nos vies. Eux, ils l'ont expérimenté. C'est pour ça qu'ils font demi-tour. Endeuillés à l'aller, tout feu, tout flamme au retour. C'est ça la vie avec Jésus. Oui, Jésus bouleverse nos vies. Alors comme des dizaines de pèlerins, comme des millions de chrétiens, et comme ces deux hommes sur ce chemin d'Emmaüs, laisse-toi toi aussi bouleverser par Jésus pour ta vie ici et pour l'éternité. Amen. Je vous laisse avec cette diapo qui était inscrite, c'était un tableau qui était inscrit devant l'auberge qui est dit en espagnol « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je vais encore prier. Ah Seigneur Jésus, oui, sois notre chemin et notre chemin sur la mort. Oui Jésus, viens dans notre cœur de chacun ici présent, mais aussi pour ceux qui nous écoutent à travers les podcasts. Je sais que je n'arriverai jamais à faire tout le bien que je voudrais. Et combien de fois je me déçois, que je déçois ma femme ou d'autres. Et combien de fois je te déçois. Mais merci, parce que toi, tu as accepté par amour de mourir sur cette infâme croix. Et merci pour ta résurrection qui nous prouve qu'en mettant ma confiance en toi, je vivrai pour l'éternité. Merci pour ce tombeau vide, Jésus. Ouais. Que tu puisses nous donner vraiment toute cette intelligence, cette foi, de comprendre tout l'espoir que tu as mis dans ça. Ouais. Amen.